Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse de la situation macroéconomique du Gabon. C'est un cas d'étude qui interpelle tout de suite, je trouve.
Oui, tout à fait.
D'un côté, on a cette image d'un trésor écologique, un pays couvert de forêts, riche en pétrole, en minerais.
L'image d'Épinal, en quelque sorte.
C'est ça. Et de l'autre, des indicateurs sociaux, économiques, qui montrent une réalité beaucoup plus dure. La mission qu'on se donne, c'est donc de comprendre ce grand écart. Quelle est la véritable santé économique du Gabon, là, à l'aube de 2025?
C'est un cas passionnant parce qu'il illustre un drame très contemporain, celui de ce qu'on appelle parfois la malédiction des ressources naturelles.
La richesse maudite.
Exactement. Le Gabon a, sur le papier, tous les atouts pour être un pays extrêmement prospère. Et pourtant, on va le voir, il y a une déconnexion quasi totale entre cette richesse théorique et le bien-être réel de la population. C'est toute l'histoire d'un potentiel immense qui se heurte à des murs bien réels et structurels.
Alors, pour commencer à comprendre, il faut peut-être brosser un portrait du pays. Ce qui m'a tout de suite frappé dans les sources, ce sont des chiffres démographiques assez contre-intuitifs. On a une population de 2,3 millions d'habitants, mais une urbanisation à 80%.
C'est énorme.
C'est énorme et très atypique pour la région, non?
C'est un point absolument central. Et cette urbanisation est même ce qu'on pourrait appeler une macrocéphalie urbaine. C'est un peu technique, mais l'idée est simple.
C'est-à-dire?
Près de 60% de toute la population gabonaise est concentrée dans deux villes seulement.
Deux villes.
La capitale politique, Libreville, et la capitale pétrolière, Port-Gentil. Ça crée une pression phénoménale sur les infrastructures, l'emploi, le logement dans ces deux pôles, tout en laissant le reste de ce territoire immense, qui est surtout forestier, quasiment vide.
Et l'autre chiffre qui donne le vertige, c'est l'âge de cette population. Une personne sur deux a moins de 20 ans. C'est une statistique incroyable.
Oui.
On imagine l'énergie, le potentiel, mais aussi l'angoisse que ça peut représenter.
C'est le fameux défi à double tranchant. Cette jeunesse, c'est le plus grand atout du Gabon. C'est sa force vive pour l'avenir. Mais il y a une condition, une seule: qu'elle soit bien formée et qu'elle trouve sa place sur le marché du travail.
Et si ce n'est pas le cas?
Si ce n'est pas le cas, ce qu'on appelle le dividende démographique peut très vite se muer en bombe à retardement social. Le défi de l'emploi pour les jeunes, ce n'est pas un sujet parmi d'autres au Gabon. C'est le sujet.
D'accord. Donc on a une population jeune, très urbaine, mais le portrait ne serait pas complet sans parler de l'atout maître du Gabon, sa carte de visite internationale, l'environnement.
On peut même dire son super pouvoir.
Son super pouvoir.
Oui, le Gabon est l'un des très rares pays au monde à être un absorbeur net de carbone.
C'est-à-dire qu'il absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet.
Exactement. Grâce à sa forêt, qui couvre près de 90% de son territoire, le pays joue un rôle de poumon pour la planète qui est vital. Le problème, et c'est un problème de taille, c'est que ce service rendu à l'humanité n'est aujourd'hui quasiment pas monétisé.
Pas valorisé économiquement.
Très peu. C'est un capital naturel absolument gigantesque qui ne rapporte presque rien au budget de l'État.
Et ce capital naturel qui ne rapporte rien, ça met une pression énorme sur l'économie classique, j'imagine.
Bien sûr.
Parce que pendant ce temps, cette économie-là, elle semble vraiment peinée. Les chiffres de croissance pour 2024, 2,9%, bon, ce n'est pas catastrophique, mais on sent que c'est un rythme de sénateur.
C'est une croissance anémique, c'est le mot. Elle est bien trop faible pour créer suffisamment d'emplois pour cette jeunesse qui arrive en masse sur le marché,
Et pour réduire la pauvreté?
et trop faible pour faire reculer la pauvreté de manière significative, tout à fait. Et pour comprendre cette faiblesse, il faut regarder la structure même de l'économie.
Et là, quand on regarde sous le capot, on tombe sur une dépendance qui est, c'est presque une caricature.
Ah oui.
Les sources sont formelles. 97% des exportations reposent sur seulement trois produits. Trois.
Le pétrole, le manganèse et le bois.
Voilà.
C'est la définition même d'une économie de rente. Et ça a une conséquence directe, mécanique, une vulnérabilité extrême aux chocs extérieurs.
Forcément.
Quand les cours mondiaux du pétrole baissent, même un peu, le budget de l'État gabonais prend l'eau immédiatement. Il n'y a aucun amortisseur, aucune diversification pour compenser. L'économie est sur un fil.
Et ce fil, justement, il a l'air particulièrement tendu en ce moment, si on en croit les données sur les finances publiques.
Très tendu, oui.
Il y a eu un décrochage assez violent, semble-t-il.
Oui, 2024 marque un tournant très inquiétant. Il y a eu un effet de ciseau dévastateur.
Un effet de ciseau.
Oui, d'un côté, les dépenses publiques ont littéralement explosé, avec une hausse de 24%.
24%.
Oui, Et de l'autre, au même moment, les recettes du pétrole ont chuté. Résultat, le solde budgétaire a basculé de manière spectaculaire.
C'est-à-dire qu'on passe de...
On est passé d'un excédent de 1,8% du PIB en 2023, ce qui était plutôt sain, à un déficit projeté de 3,7% en 2024. C'est un retournement de situation brutal.
Et au-delà des pourcentages, un État qui creuse un tel déficit, ça se manifeste comment au quotidien? Ça veut dire que l'entrepreneur qui a remporté un marché public, il attend son argent pendant des mois et ça paralyse sa propre activité.
C'est exactement ça. La première conséquence, ce sont les arriérés de paiement. L'État ne paye plus ses fournisseurs à temps, ce qui grippe toute la chaîne économique privée.
D'accord.
Et la seconde conséquence, c'est que pour boucher les trous, l'État s'endette. La dette publique est sur une trajectoire ascendante très très rapide et devrait atteindre 80,4% du PIB en 2025.
Ah oui, c'est un seuil d'alerte.
C'en est un. Et ce n'est pas un hasard si l'agence de notation Fitch a récemment dégravé la note de crédit du pays.
Ce qui veut dire, si je comprends bien, que même pour emprunter de l'argent afin de se financer, ça va coûter plus cher au Gabon.
Exactement.
C'est le début d'un cercle vicieux.
Voilà. Une note dégradée, c'est un signal de risque accru pour les prêteurs. Donc, les taux d'intérêt montent, le service de la dette pèse plus lourd dans le budget, et il reste encore moins d'argent pour les investissements ou les services publics. C'est une spirale dont il est très difficile de sortir.
Et c'est là qu'on arrive au cœur de ce que les sources appellent le paradoxe gabonais.
Le fameux paradoxe.
On a décrit cette richesse naturelle, ces ressources. Et pourtant, les indicateurs sociaux sont dans le rouge. Plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le chômage frôle les 20%, touchant massivement les jeunes. La formule qui revient est simple. Une économie riche, mais peu inclusive.
Ce paradoxe, on peut l'incarner dans une statistique, une seule, qui est absolument sidérante et qui, à mon sens, résume tout le drame gabonais.
Je vous écoute.
Les économistes ont calculé l'évolution de la richesse nationale totale entre 1995 et 2020. Sur cette période, cette richesse a augmenté de 35% pour atteindre 105 milliards de dollars. C'est une performance.
C'est une performance honorable.
Honorable, oui.
Attendez, il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre parce que la suite, elle est vertigineuse. Le pays, dans son ensemble, s'est enrichi de 35%.
Oui.
Mais sur la même période, la richesse par habitant a chuté de 34,7%.
Voilà.
Le pays est plus riche, mais l'habitant moyen est plus pauvre. Comment? Comment est-ce seulement possible? C'est une déconnexion totale.
C'est le cœur du réacteur du problème. La croissance démographique, qui a été très forte, a été bien plus rapide que l'accumulation d'une richesse partagée. Pour répondre à votre question, plusieurs facteurs expliquent ce décrochage. Le premier, c'est une gouvernance historiquement, disons, défaillante.
D'accord.
La rente des matières premières a été captée par une élite, au lieu d'être investie dans des biens publics comme l'éducation, la santé ou les infrastructures durables.
Donc un problème de répartition, avant tout?
En grande partie, oui. Mais il y a un second facteur, plus structurel. C'est la nature même de cette richesse. L'économie gabonaise est une économie d'extraction, pas de transformation.
C'est-à-dire?
On sort le pétrole du sol, on le met dans un bateau. On coupe le bois, on le met dans un bateau. On extrait le manganèse, on le met dans un bateau.
D'accord, je vois.
Toute la valeur ajoutée, le raffinage du pétrole, la fabrication de meubles, la transformation du minerai qui, elle, crée des emplois qualifiés et des profits plus stables, se fait ailleurs.
Le Gabon ne garde que les miettes.
Il ne garde que les miettes de la chaîne de valeur de ses propres richesses. C'est exactement ça.
Et quand on regarde la composition de cette richesse nationale de 105 milliards de dollars, c'est très très parlant. Le capital naturel, donc les forêts, le sous-sol, pèse 42%.
C'est énorme.
Le capital humain, l'éducation, les compétences, 31%. Et le capital physique, les usines, les routes, seulement 27%.
La nature domine tout.
Le reste est à la traîne.
C'est la signature parfaite d'une économie qui n'a pas réussi à utiliser sa rente naturelle pour construire les autres piliers de sa prospérité. Et au sein de ce capital naturel, il y a ce trésor dont on a parlé.
Oui.
La forêt.
Sa valeur en tant que puits de carbone est estimée à 75 milliards de dollars.
75 milliards.
C'est une richesse latente, un potentiel économique colossal, qui ne demande qu'à être activé par des mécanismes de compensation internationaux, plus justes.
Ce qui nous amène à la question de l'avenir. Face à ce tableau, un peu sombre, quelles sont les perspectives? Les projections pour 2025-2027 sont assez moroses, avec une croissance moyenne prévue à 2,4%. On reste sur ce rythme très lent.
Le chiffre brut est modeste, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder quels secteurs sont censés tirer cette petite croissance.
Ah! Et qu'est-ce qu'on voit? Pour la première fois, ce n'est plus seulement le pétrole dont la production est de toute façon sur le déclin. Les espoirs reposent sur le bois transformé, sur d'autres minéraux que le manganèse et sur l'agriculture.
C'est le signe d'un début de diversification, hein?
C'est un signe, encore timide, qu'une diversification est en train de s'amorcer. Oui.
Les sources mentionnent aussi un facteur politique, une récente stabilisation du pouvoir qui pourrait rassurer les investisseurs. Est-ce que ça peut être un vrai game changer, comme on dit, ou c'est un facteur secondaire?
Alors, la stabilité est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
D'accord.
On demande des affaires saines, d'une justice fiable, de contrats respectés et d'infrastructures de qualité. Le vrai enjeu pour le Gabon n'est pas seulement de créer un peu de croissance, c'est de changer la qualité de cette croissance.
Pour qu'elle soit plus inclusive.
Pour qu'elle soit enfin créatrice d'emplois pour les jeunes Gabonais.
Quand on parle de diversification vers le bois transformé ou l'agriculture, est-ce que c'est concret, hein? On parle de la construction de nouvelles usines de meubles, de la mise en culture de nouvelles terres, ou ça reste encore au stade des intentions?
Il y a des débuts concrets. Par exemple, il y a une zone économique spéciale, près de Libreville, qui a attiré des investissements dans la transformation du bois.
D'accord.
Ça a permis de créer une filière de plaquage, de contreplaqué. Mais le défi reste immense. Pour l'agriculture, il faut des réformes foncières, des infrastructures pour acheminer les productions, des filières de formation. Pour les minerais, il faut des investissements colossaux.
Donc la route est encore très longue.
Très longue pour passer de quelques projets pilotes à une véritable économie diversifiée. La question n'est plus « faut-il diversifier son économie ?» Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est « comment accélérer radicalement le processus ?»
En somme, si on devait synthétiser, l'idée la plus importante à retenir n'est peut-être pas que le Gabon est un pays pauvre.
Non, au contraire.
C'est tout l'inverse. C'est un pays immensément riche, mais confronté à un défi vertigineux. Et ce défi, il est résumé par ce chiffre fou dont on a parlé. Comment un pays où la richesse nationale a bondi de 35% en 25 ans, a-t-il pu laisser l'habitant moyen s'appauvrir d'autant sur la même période? C'est cette fracture qu'il faut réparer.
C'est exactement le nœud du problème. Et pour le dénouer, les leviers sont connus, ils sont sur la table. Le premier et le plus important, c'est l'amélioration drastique de la gouvernance et de la transparence. Il faut que chaque franc issu des ressources naturelles soit traçable et investi pour le bien commun.
C'est la base.
Le deuxième, c'est l'accélération de cette diversification économique dont on vient de parler, pour sortir de la tyrannie du pétrole.
Le troisième étant, j'imagine, l'investissement dans les gens eux-mêmes.
Absolument. Investir massivement dans le capital humain. Éducation, formation professionnelle, santé. Il faut donner à cette jeunesse les compétences pour construire l'économie de demain, et pas seulement celle d'hier. Et enfin, il y a ce quatrième levier, peut-être le plus novateur.
Oui.
C'est de se battre sur la scène internationale pour obtenir une juste rémunération pour les services climatiques que rend la forêt gabonaise. Transformer la protection de la nature en un pilier économique à part entière.
Ce qui nous laisse avec une question en suspens, une pensée pour la suite. Si la vraie richesse d'une nation au XXIe siècle ne se mesure plus seulement à ce qu'elle extrait de son sol, mais aussi, et de plus en plus, à ce qu'elle préserve...
Une perspective très intéressante.
Alors, quelle est la véritable valeur du Gabon pour le monde? Et surtout, comment cette valeur pourrait-elle, un jour, enfin transformer la vie de chaque Gabonais?